France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous passons la semaine dans le Cher, département rural du Centre-Val de Loire. Et aujourd'hui, je vous parle d'un formidable festival de théâtre qui vient réchauffer les petits villages au cœur de l'hiver. Feu Follet, c'est le nom de ce festival, organise des spectacles dans des communes qui n'ont pas de salle de spectacle et propose des ateliers de théâtre pour les habitants aussi. Plein feu sur Feu Follet aujourd'hui avec Julie Marty, qui a 23 ans et qui est l'une des organisatrices de ce très bel événement. Mais d'abord, j'ai une application à vous conseiller. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Nous mettons en lumière régulièrement dans cette émission des ressourceries, des recycleries, des donneries, des endroits où l'on donne les objets ou vêtements dont on ne se sert plus pour éviter bien sûr de les jeter. Mais il existe aussi une version en ligne, une application de dons entre particuliers créée il y a 8 ans maintenant et qui affiche plus de 5 millions d'utilisateurs et d'utilisatrices. Elle s'appelle Give, ça s'écrit G-E-E-V. Bonjour Hakim Baka.
Bonjour.
Co-fondateur de cette application. Parlons bananes d'abord, s'il vous plaît, Hakim. À chaque don sur Give, on gagne des bananes. À quoi servent ces bananes?
Alors, ces bananes, en fait, sont une unité de crédit. En fait, pour conserver de l'équité, on a créé cette mécanique qui consiste à poster un objet. Donc, je crée une annonce, une photo, un titre, une description, je la poste. Cette annonce va être contactée par d'autres utilisateurs et ces utilisateurs ont besoin de bananes. Et ces bananes, pour en avoir, j'ai besoin de moins donner également. Donc je donne, je gagne des bananes et ces bananes me permettent de récupérer d'autres objets en contactant d'autres givers.
Donc ce sont des bananes virtuelles, faut-il le préciser, qui évitent que les gens récupèrent sans jamais rien donner finalement.
C'est exactement ça. L'idée, c'est de placer nos utilisateurs dans cette boucle vertueuse, vraiment dans cet usage de la circularité, de se dire, voilà, je participe à cette consommation responsable, je fais partie d'une communauté, mais voilà, c'est un peu donnant-donnant. Alors, la réalité, c'est que je peux aussi récupérer, il y a une petite subtilité, des annonces sans bananes. Parce qu'au bout d'un moment, parce qu'on veut absolument que tous les objets partent, les annonces passent de bananes à sans bananes. Donc à un moment donné, l'annonce est contactable même sans rien avoir donné, parce que notre mission chez Give, c'est quand même que tous les objets soient récupérés.
Voilà, donc les produits un peu moins demandés, puisqu'ils n'ont pas trouvé preneur, sont disponibles sans aucune banane.
Voilà, nous on veut que voilà, qu'aucun objet reste sur le carreau.
J'ai déjà donné personnellement sur Give et je constate sur mon profil que je suis une ado, Hakim Baka. Qu'est-ce que ça signifie?
Alors, on a cette mission du réemploi à très grande échelle. On veut que tous les objets qui aient encore une valeur d'usage soient réutilisés. Mais on le fait dans un environnement qu'on veut ludique, sympathique, bienveillant, etc. Et plus on donne, plus finalement on va passer des niveaux. Et vous êtes voilà, giver ado, donc a priori niveau 3, si je ne me trompe pas, niveau 2 ou 3. Et voilà, en fonction de votre utilisation, on va vous permettre de passer des niveaux. Donc c'est très ludique, c'est juste pour
ça sert à rien, mais c'est marrant. Quoi.
C'est juste marrant. Mais on suit aussi d'autres indicateurs qui sont plus utiles. On suit par exemple, vous pouvez également suivre, vous le savez, votre niveau d'économie, c'est-à-dire que plus vous récupérez des objets, plus vous voyez combien vous avez économisé dans l'année, et plus vous donnez et plus vous récupérez, vous savez également combien vous avez permis d'économie de CO2. Donc on a des indicateurs très ludiques et très légers, mais on a aussi des indicateurs qui sont beaucoup plus sérieux.
Quels sont les objets les plus donnés sur Give?
En fait, sur Give, vous retrouvez vraiment en proportion ce que vous avez chez vous. Donc, par exemple, sur Give, vous avez à peu près 30%, entre 30 et 35% de vêtements, parce que chez soi, on a beaucoup de vêtements. Vous avez à peu près entre 5 et 7% de meubles, parce qu'on a évidemment moins de meubles. Donc, des vêtements, de la puériculture, des jouets, de la culture, du petit électroménager. Voilà, vraiment, tout ce que vous pouvez à la fois retrouver dans une habitation standard, à la fois aussi sur un site de vente.
La nouveauté récente, Hakim Baka, c'est l'ouverture en septembre dernier d'un magasin gratuit. Un vrai magasin, pas une boutique en ligne. Il est à Toulouse et ce n'est pas gratuit exactement puisqu'il faut s'abonner. 40 euros par an pour pouvoir récupérer 5 objets par mois maximum. Est-ce que vous avez l'intention d'ouvrir d'autres boutiques Give ailleurs en France?
On aimerait beaucoup. Là, aujourd'hui, on est beaucoup d'acteurs à travailler sur cette mission-là. Donner une seconde vie à des objets qui ont vocation à être réutilisés. Mais on ne travaille tous ensemble que sur la partie émergée de l'iceberg. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore des centaines de milliers, de millions, voire de dizaines de millions d'objets qui sont jetés chaque année. Donc oui, nous, on aimerait poursuivre notre mission, continuer de développer l'application, embarquer plus d'utilisateurs, continuer d'ouvrir des boutiques. Alors là, on en a ouvert une seule. C'est vraiment très expérimental. Donc voilà. Donc, Oui, on aimerait, parce que la mission est loin d'être terminée et qu'on a encore beaucoup à faire.
Je le disais, vous avez désormais plus de 5 millions d'utilisateurs. L'application a pris de l'ampleur en 8 ans. Et ce, sans doute, au détriment d'Emmaüs, notamment, et des autres associations qui revendent des objets et des vêtements qu'on leur donne. On peut estimer que vous leur faites une concurrence un peu déloyale. Qu'est-ce que vous répondez à cela ?
Alors, nous, on a toujours été plus dans une logique de co-construction, évidemment, avec les associations. Emmaüs en fait partie. Il y a deux points. Le premier point, c'est que notre mission est un petit peu différente. Nous, notre mission, c'est une mission à vocation écologique. C'est-à-dire, notre objectif, c'est que tous les objets soient réemployés. On n'est pas dans la valorisation de l'objet. Et une association est plus dans l'utilisation du réemploi pour financer voilà, son activité solidaire. Et dans cette logique de co-construction, nous, on se rend compte qu'en fait, on a beaucoup de synergies à créer avec ces assos. On ne veut pas évidemment travailler sur les mêmes typologies d'objets. Toutes les personnes qui donnent à Emmaüs doivent continuer à donner à Emmaüs. C'est extrêmement important de continuer de soutenir les ESS. Mais les associations...
Les entreprises de l'économie sociale et solidaire, je le précise.
Exactement, mais les associations sont soumises à des contraintes aussi de stockage, de logistique, etc. Et vont être plus enclins à récupérer des objets qu'elles peuvent facilement revendre. Et nous, voilà, nous on peut servir aussi en plan B. Par exemple, beaucoup d'assos croulent sous les vêtements, sont submergés par les vêtements, mais par contre ont beaucoup moins d'électroménagers. Donc effectivement, il faut peut-être continuer de nourrir les associations de produits à forte valeur ajoutée pour qu'elles puissent les revendre et financer leur activité. Et les produits à faible valeur ajoutée dont on déborde, en fait, nous, on sert à ça parce qu'on peut opérer sur des échelles en digital que ne peuvent pas gérer des associations. D'ailleurs, on a beaucoup d'associations qui redirigent leurs donateurs souvent vers GIF quand ce sont des produits qu'elles ne peuvent pas récupérer. Par exemple, aujourd'hui, la valeur de revente d'une énorme armoire normande, etc., est très faible. Et ça coûte en logistique et ça coûte en stockage. Et derrière, potentiellement, ça va plutôt finir à la poubelle parce qu'elle ne va pas être revendue. Aujourd'hui, on sait et on travaille avec les assos main dans la main. Elles vont plus rediriger cette personne qui veut donner vers GIF en disant donnez-la vous-même parce que nous, finalement, le potentiel de revente est faible. Donc, on préfère que vous la donniez vous-même.
On peut tout donner sur GIF, même un objet très cassé ou en très mauvais état.
Pas du tout. Pas du tout, je suis assez ferme là-dessus. La distinction entre le réemploi et le recyclage, elle est très importante. Donc nous, sur GIV, en fait, on modère, donc c'est-à-dire on valide toutes les annonces qui sont publiées, justement, et on fait beaucoup de pédagogie là-dessus, sur la distinction entre ce qui peut être utilisé et ce qui ne l'est pas. Peu importe l'âge d'un objet, peu importe son look, peu importe sa provenance, s'il peut être réutilisé, il doit rejoindre le secteur du réemploi, on en fait partie, les assos en font partie. Si l'objet ne peut pas être réutilisé, il doit rejoindre une filière de revalorisation matériaux, donc le recyclage. Parce qu'on accepte aussi les objets qui peuvent être réparés, c'est important. Mais un objet qui n'est non réparable, non utilisable, ne sera pas accepté sur la plateforme et on redirigera gentiment la personne qui quand même est dans une démarche positive vers plutôt une filière de revalorisation.
Avez-vous vent de belles histoires rendues possibles par votre application ?
Des centaines, des milliers, même beaucoup d'histoires désuètes comme ça, grâce à vous, j'ai finalement réussi à... Enfin, j'ai connecté avec des voisins avec lesquels qui j'avais jamais parlé, ou quelqu'un que j'avais rencontré à la boulangerie, à qui j'avais jamais parlé. Donc, on en a beaucoup. Et puis après, on a des histoires aussi beaucoup plus poignantes. Par exemple, des gens qui sont touchés par des sinistres, des inondations, des incendies, etc., et qui arrivent à se remeubler très rapidement dans cet élan de générosité, de solidarité, bien en avance de tout ce que pourraient faire d'ailleurs des assurances, etc., en récupérant facilement des objets sur l'application. Donc on a beaucoup d'histoires et c'est toujours à chaque fois très positif.
Merci beaucoup Hakim Baka, cofondateur de GIV, application de dons entre particuliers. Bonne journée.
Merci.
France Inter. Carnet de campagne.
Les feux follets sont des lumières mystérieuses aperçues dans la nuit et qui alimentent nombre de légendes. C'est sans doute pour allumer la lumière dans les villages, pour y apporter de la culture, que ce festival s'appelle ainsi. Le festival Feux follets démarre la semaine prochaine dans le Cher. Bonjour Julie Marty.
Bonjour.
Bienvenue dans les carnets. Vous travaillez pour la compagnie Le Grand 12 qui organise ce festival. Compagnie de théâtre installée à Herry dans le Cher entre Sancerre et la Charité-sur-Loire. Et vous proposez avec Feux follets du théâtre itinérant. Quel est votre itinéraire précisément ?
Alors cette année, on va aller dans 13 communes. On va poser nos valises à Riant, Genouilly, Pigny, Vigneux-sur-Barangeon, Néronde, Mériès-Bois, Ivoy-le-Pré, Givardon, Sancoin, Vinon, Méreau, Chéry et on terminera chez nous à Herry.
Point commun entre toutes ces communes, elles n'ont pas de salle de spectacle.
Exactement. On va jouer soit dans des salles des fêtes, soit dans des écoles ou dans tout lieu qui nous permettrait de poser nos valises.
Comment est né ce festival Feux follets ? À quel besoin répond-il ?
Alors ce festival, il est né tout simplement de l'amour qu'on a pour notre petite commune de Héry, qui est une commune qui est très dynamique, mais qui n'a pas forcément tous les équipements possibles pour pouvoir accueillir des spectacles professionnels. Donc, c'est-à-dire des spectacles qui auraient besoin d'un cadre technique particulier. Et nous, on a voulu créer un lieu différent qu'on pourrait balader et qui nous permettrait de poser nos valises dans toutes les salles des fêtes ou dans toutes les communes qui voudraient accueillir du théâtre professionnel mais qui n'auraient pas les capacités techniques de le faire. Donc nous, on vient répondre à ce besoin-là, cet éloignement des salles de théâtre.
Feu Follet propose deux spectacles pour cette deuxième édition du festival. Vous nous parlez de ces deux pièces, Julie ?
Oui, bien sûr. Le premier spectacle, c'est Le Petit Prince, qui est mis en scène par la compagnie du Croissant Bleu, qu'on accueille cette année, qui est un spectacle qui a pour particularité d'avoir des marionnettistes et un musicien live au plateau, et qui met surtout l'accent sur la lecture à voix haute et l'importance de rentrer dans le conte et de raconter des histoires. On en a bien besoin en ce moment. Donc c'est plutôt une pièce pour les enfants, mais tous les adultes sont bienvenus. Et la seconde pièce, c'est une pièce qui s'appelle « Après l'esquisse », qui parle de beaucoup de choses, mais entre autres de ce que c'est que grandir à la campagne, de comment on y vit, comment on l'aime, comment on en part, et aussi de comment on peut faire face au deuil quand on est jeune et comment on s'en remet.
Et donc, c'est du théâtre professionnel, hein ?
Exactement. Toute la troupe du Grand 12 sont des comédiens professionnels et la compagnie du Croissant Bleu qu'on accueille également sont des comédiens professionnels.
Vous proposez aussi des ateliers pour le grand public.
Exactement. La particularité de notre compagnie, le Grand 12, c'est que on croit vraiment que le théâtre est un art qui se partage en dehors du plateau. Et donc, on a un programme d'action culturelle, ce qu'on appelle, qui est en quelque sorte des ateliers de théâtre, qu'on mène tout au long de l'année et qu'on a décidé de prolonger et plus particulièrement créé lors du festival Feu Follet, et qui permet à différents publics de découvrir ce qu'est le théâtre, en passant par l'écriture, le jeu, mais aussi la création de costumes, la création de musique, la création de marionnettes pour cette année.
Et alors pourquoi ce nom, Feu Follet ? C'était effectivement parce qu'il y a un peu de magie dans cette histoire ?
Oui, exactement. Et puis aussi parce que nous, dans le Cher, on a beaucoup de légendes locales. Et on a aussi une volonté avec le festival Feu Follet, comme vous l'aviez dit, de rallumer des petites lumières. Le festival, il a lieu donc entre février et mars, et c'est un moment où, en tout cas chez nous, on n'a pas forcément de grands temps forts culturels, qui sont plutôt en été. Et donc, ça permet de réchauffer un petit peu les cœurs et rallumer les lumières au cœur de l'hiver.
Ce sera la deuxième édition de ce festival. Comment s'est passée la première ?
La première édition s'est très bien passée, on en est très fiers. Elle a été à la fois très éprouvante pour nous et très gratifiante. On est très heureux parce qu'on a eu beaucoup de retours positifs, notamment après les ateliers de théâtre. On est passé dans des centres de loisirs, on est passé dans des écoles. Cette année, on ira aussi dans des maisons de retraite. Et en tout cas, pour les écoles, les centres de loisirs et le grand public, certains et certaines se sont inscrits à des clubs de théâtre après, où on voulait refaire du théâtre. Donc pour ça, on est très contents. Mmh. Et au niveau de la fréquentation, on a eu des super salles, notamment à Ménétréol-sous-Sancerre, qui est un petit village où on avait plus de 120 personnes dans la salle.
Donc, tout le village, quoi.
C'est incroyable pour nous. Pas tout le village, mais une bonne moitié.
Voilà, festival Feu Follet, c'est donc pendant un mois, du 12 février au 15 mars, à Héry et dans une dizaine de villages du Cher. Merci beaucoup Julie.
Bah, avec plaisir.
Et bon festival.
Merci, à très bientôt.